Alors, je vais vous lire les textes liturgiques pour ce premier dimanche de carême. L'épître est tiré de saint Paul aux Corinthiens. Mes frères, nous vous exhortons à ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu, car il a dit au temps favorable, je vous ai exaucé, au jour du salut, je vous ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Ne donnons à personne aucun scandale afin que notre ministère ne soit pas décrié, mais montrons-nous en toutes choses comme des ministres de Dieu par une grande patience dans les tribulations, dans les détresses, dans les angoisses, dans les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la chasteté, par la science, par la longanimité, par la bonté, par les fruits de l'Esprit Saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la force de Dieu, par les armes de la justice à droite et à gauche, dans la gloire et l'ignominie, dans la mauvaise et la bonne réputation, comme des séducteurs et pourtant véridiques, comme inconnus, pourtant bien connus, comme mourants, et voici que nous vivons, comme châtiés mais non mis à mort, comme tristes et toujours dans la joie, comme pauvres et enrichissant beaucoup d'autres, comme n'ayant rien et possédant tout. On se lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus fut conduit dans le désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Et lorsqu'il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et le tentateur s'approchant de lui, lui dit, « Si vous êtes le Fils de Dieu, dites que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable le transporta dans la cité sainte et le plaça sous le haut du temple. Et il lui dit, « Si vous êtes le Fils de Dieu, jetez-vous en bas, car il est écrit, il a donné des ordres à ses anges à votre sujet, et ils vous porteront dans leurs mains de peur que votre pied ne heurte contre la pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, vous ne tenterez pas le Seigneur votre Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, il lui montra tous les royaumes du monde avec leur gloire, et il lui dit, « Je vous donnerai toutes ces choses si, vous prosternant, vous m'adorez. » Alors Jésus lui dit, « Retirez-vous, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa et voici que des anges s'approchèrent et le servirent. Asseyez-vous. Donc quelques annonces. Donc, je vous rappelle que en carême, pour tous ceux qui ont entre 21 et 60 ans, donc jeûne obligatoire, jeûne c'est-à-dire un repas par jour, il est toléré une petite collation le matin et le soir. Pour tous ceux qui ont moins de 21 ans donc, ou plus de 60 ans, il n'y a pas d'obligation du jeûne. Par contre, l'obligation de l'abstinence demeure pour les vendredis. Vendredi carême et tous les vendredis de l'année. Attention, cette semaine, il y a en plus les quatre temps, donc mercredi, vendredi et samedi, donc quatre temps. Là, vous avez l'abstinence obligatoire pour tous ceux qui ont l'âge de raison, en plus du jeûne. Donc, vendredi comme tous les vendredis, mais en plus le mercredi et le samedi. Donc, n'oubliez pas que le temps de... Je vous en reparlerai, mais le temps de carême est un temps... De pénitence, c'est surtout un temps de préparation spirituelle à la fête de Pâques. Donc, commencez déjà à se préparer, éventuellement par une bonne confession au début de carême. Pour les retraites, j'ai encore une place pour la retraite de Semaine Sainte. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, certains d'entre vous qui m'ont parlé éventuellement de venir à cette retraite, donc pensez à vous inscrire rapidement. Je n'ai plus qu'une seule place pour la retraite de Semaine Sainte. Sinon, j'ai des places pour toutes les autres retraites. Vous avez la liste des retraites sur le site internet pour ceux qui n'ont pas le papier avec eux. J'ai également envoyé cette semaine dernière une lettre aux amis bienfaiteurs. Donc, si vous ne l'avez pas reçue, pour ceux qui m'écoutent sur internet, c'est que vous n'êtes pas sur ma liste d'adresses. Donc, pensez à me donner moi votre adresse courriel pour que je puisse vous l'envoyer. Si vous l'avez reçue par mail, par poste physique, ça veut dire que je n'ai pas votre adresse mail. Donc, si vous préférez la recevoir par email, pour moi, c'est plus pratique. Ça coûte moins cher, je ne vais pas mettre de timbre. Donc, c'est que je n'ai pas votre adresse courriel, tout simplement. Donc, pensez vous mettre à jour de ce côté-là, c'est plus facile pour que j'ai des fichiers complets. C'est évident que le fichier d'adresse que j'ai, quelque chose de purement personnel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, nous sommes dans ce que les anciens appelaient la Sainte Quarantaine. La Sainte Quarantaine, le temps liturgique le plus riche de l'année liturgique. Rappelez-vous ce que disent les Pères, Dieu donne plus de grâce pendant le temps du carême que pendant toute l'année liturgique. Et il faut bien comprendre l'esprit du carême. On parle beaucoup du jeûne. Très bien, il faut jeûner. Cependant, le premier jeûne dont parlent les Pères, c'est le jeûne du péché. Ça ne sert absolument à rien ou pas grand-chose de jeûner si on vit dans le péché mortel. Donc, c'est très joli de se focaliser sur le jeûne, mais n'oublions pas que d'abord, si je ne suis pas en état de grâce, eh bien, je peux jeûner et manger un pois chiche tous les 3 jours, c'est pas ça qui va m'emmener au ciel, puisqu'il me manque l'essentiel. Si je n'ai pas l'état de grâce, je ne peux gagner aucun mérite par le jeûne. Donc la première condition pour pouvoir jeûner en obtenant plus de grâce, c'est évidemment d'être uni comme par un cordon ombilical spirituel avec notre Seigneur Jésus-Christ par l'état de grâce. C'est absolument évident. Alors essayons d'expliquer un peu comment justement utiliser davantage ce temps de carême. Je voudrais utiliser pour vous aider les magnifiques textes liturgiques du mercredi des cendres, avant de parler un petit peu de l'évangile d'aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas pu assister à la messe pour le mercredi des cendres, je vous conseille beaucoup de lire les textes liturgiques splendides qui sont surtout avant la messe du mercredi des cendres et la bénédiction des cendres avec des textes liturgiques d'une très très grande beauté. Et je voudrais utiliser certains de ces textes pour vous aider justement pour ce début de carême. Que nous dit l'Église? Qu'il faut nous arracher au péché. Le mot arracher, bien dire ce que ça veut dire. Arracher dit emploi de la force. On ne va pas demander au démon, taper sur l'épaule en disant, s'il vous plaît, monsieur le démon, est-ce que vous pourriez quitter mon âme? Pas comme ça que ça se passe. Le démon s'accroche. Il s'accroche tellement bien, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ, que quand il quitte une âme, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher 7 démons pires que lui pour essayer de revenir dans la maison. Et s'il revient dans la maison, évidemment, avec 7 démons en plus, situation encore pire. Donc, une image qu'on peut utiliser, imaginez quelqu'un qui essaye d'enlever d'une pièce de bois dur un gros clou bien rouillé qui est enfoncé sur 5 cm dans le bois dur. Vous n'allez pas prendre votre main et essayer de sortir le clou comme ça. Voilà. Vous arc-boutez pour arracher le clou. Il y a deux forces qui vont s'opposer. La force de la personne qui va arracher le clou et le clou qui résiste. Mais le clou qui résiste, c'est le démon. La personne qui cherche à arracher le clou, c'est la personne qui cherche à se sortir du péché. Donc, soyez pas surpris, mes bien chers frères, si cet arrachement du péché, justement, consiste en un combat, ce qu'on appelle le combat spirituel. Et pourquoi ce combat spirituel? Ben, saint Thomas d'Aquin en donne la raison. Il dit, c'est parce que nous avons en nous ce qu'il appelle un fomex peccati. Le fomex peccati, c'est la source du péché. Il y a une source constante qui nous attire vers les choses défendues. C'est ça les conséquences du péché originel. Encore une fois, même pour ceux qui ont reçu le baptême. Et à cause de ce fomex peccati, si vous voulez, à cause des blessures que vous connaissez, je vous en ai souvent parlé, l'ignorance, la malice, la faiblesse, la concupiscence. Et donc, il y a ce combat entre la volonté du démon qui cherche à nous maintenir la tête sous l'eau et au contraire, la volonté du bon Dieu qui cherche à nous aider à sortir du péché. Et donc, il y a ce combat constant. Il est très intéressant de voir que dans ces textes liturgiques dont je vous parle, quelles sont les vertus que nous conseille surtout de pratiquer la Sainte Église pour arracher ce clou. Eh bien, le texte parle de deux vertus essentielles, l'humilité et l'obéissance. Ou plus exactement, l'humilité et la pénitence. plutôt ça. L'humilité, évidemment, contre l'orgueil. Et la pénitence contre l'esprit de jouissance. Rappelez-vous que nous avons dans nos âmes quatre puissances, l'intelligence, la volonté, l'irascible et concupiscible. Vous savez déjà ces choses-là, je vous en ai souvent parlé. Le concupiscible a pour objet formel le bien désirable. Le bien en tant que tel, quelque chose de bon qu'on a le droit de désirer. Bon, si vous ne désirez pas manger, vous ne mangez plus du tout parce que aucun désir pour la nourriture, ben, vous allez vite mourir par inanition. Bon. Le bon Dieu a mis des désirs dans notre corps, dans notre nature humaine, qui sont bons en soi. C'est bien en soi. Cependant, à cause du péché originel et la blessure de la concupiscence, le concupiscible va être blessé de telle façon qu'on va désirer de façon déraisonnable des choses qu'on avait en soi le droit d'utiliser, mais qui peuvent ne pas être à utiliser vu les circonstances. Manger pour vivre, c'est une bonne chose. Vivre pour manger, c'est mauvais. Et donc, cet esprit de pénitence est absolument nécessaire pour justement lutter contre cet esprit de jouissance. S'il faut caractériser la civilisation moderne dans laquelle nous vivons, qui n'est même pas une civilisation, c'est une nombre de civilisations, le monde moderne, c'est un monde dans lequel on nous pousse à jouir toute la journée. Pourquoi ? Parce que quand on cherche la jouissance dans tous les domaines, surtout une jouissance déraisonnable, évidemment, on ne peut plus s'occuper des choses divines. Les textes liturgiques nous expliquent que si j'associe l'humilité et la pénitence, eh bien, je vais pouvoir à ce moment-là apaiser et fléchir la colère de Dieu. Dieu ne peut pas supporter le péché. Il ne peut pas supporter le péché parce qu'il est Dieu. Il le tolère. Il pourrait écrabouiller comme une mouche est écrasée par quelqu'un. Il pourrait écrabouiller le péché immédiatement. Non, il laisse le libre examen. Il laisse le libre arbitre. Et justement, il nous faut pratiquer cette vertu d'humilité, cette vertu de pénitence pour pouvoir apaiser la colère du bon Dieu et réouvrir en quelque sorte la porte de notre âme pour que le bon Dieu puisse rentrer. Imaginez, si vous voulez, quelqu'un qui essaie d'arroser un jardin, ce qui n'a pas connecté son tuyau d'arrosage au robinet, ne peut rien faire. Et donc, par l'humilité, par la pénitence, on va reconnecter le tuyau au robinet, et donc l'eau va pouvoir de nouveau circuler et arroser le jardin. Et quelles sont les conséquences de ces deux pratiques de vertu, de ces deux vertus que nous pratiquons pendant le carême, surtout l'humilité et la pénitence? Et la première de ces conséquences, c'est ce qu'on appelle le fait de se reconnaître coupable. C'est l'expression liturgique, se reconnaître coupable. C'est ça le problème, c'est qu'on a mal fou à se reconnaître coupable. L'exemple typique, c'est Adam et Ève. Adam et Ève viennent de désobéir au bon Dieu. Ils ont mangé le fruit défendu. Et Dieu va évidemment faire le reproche à Adam. Qu'est-ce que répond Adam? Ah oui, je suis désolé, j'ai vraiment fait une énorme bêtise. C'est pas de ma faute, c'est la faute de l'épouse que vous m'avez donnée. Dans le texte de la Genèse, dans toutes lettres. Alors Dieu va reprocher à Ève. Qu'est-ce que dit Ève? C'est pas de ma faute, c'est le serpent. Donc la première condition pour pouvoir obtenir les grâces du bon Dieu, c'est regretter, c'est reconnaître qu'on est coupable. Monseigneur, au séminaire, nous avions fait une fois une conférence spirituelle extraordinaire sur le sujet. J'étais tout jeune séminariste à l'époque. Et il nous avait expliqué, attention, on a tous tendance à chercher des excuses dès qu'on nous fait une remarque. Et il nous expliquait, c'est une conférence spirituelle qu'il donnait à tous les séminaristes, et il nous disait, Ne réagissez pas comme ça. Si je vous fais une remarque ou la personne en charge des travaux manuels vous fait une remarque parce que vous avez mal fait votre travail, vous deviez nettoyer les lavabos des pièces communes du séminaire, ça m'a été fait, il vous fait une remarque, ici ça a mal été fait. Il ne faut pas s'excuser tout de suite. Ah oui, je m'excuse, je n'ai pas vu. Ou on a mal terminé un travail, ah je m'excuse mais j'étais en retard. Et Mgr Lefebvre nous disait avec raison, Un bon séminariste ne cherche pas à s'excuser. J'ai mal fait, c'est ma faute, et je saurai mieux faire la prochaine fois. Et lorsqu'on se reconnaît coupable, Dieu pardonne beaucoup plus facilement. Un autre exemple, c'est Ninive. Ninive, une des plus grandes villes de l'Antiquité. Il fallait 3 jours à pied pour faire le tour de Ninive. Vous vous rendez compte de la taille de la ville? Surtout à l'époque. Ninive est une ville qui vivait dans le péché. Qu'est-ce que fait le bon Dieu? Il envoie un prophète, Jonas. Jonas a commencé par se faire tirer l'oreille parce qu'il ne voulait pas y aller. Il ne voulait pas y aller parce qu'il s'est dit, ça ne sert à rien. On prêche et personne n'écoute. Donc il a pris le bateau et il est parti pour s'enfuir de la volonté divine. Et bon Dieu qui tire les ficelles de tout ça, il envoie une tempête terrible sur le bateau. Ils ont tiré les marins complètement paniqués, tirés au sort. Ils sont aperçus que c'était à cause de Jonas. Jonas dit, bien oui, c'est de ma faute parce que j'ai fui la colère divine. Alors ils ont pris Jonas, ils ont jeté à la mer pour pouvoir sauver le bateau, à la demande de Jonas d'ailleurs. Jonas a été avalé par le poisson, comme vous le savez, rejeté sur la côte, et du coup, ben, contraint et forcé par les circonstances, il va prêcher. Qu'est-ce qu'il dit? Il se promène dans Ninive et il dit, dans 3 jours, Ninive sera détruite. Et puis il dit ça partout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ninive s'est convertie. Tout le monde s'y est mis, commencé par le roi. Il a quitté son trône, il s'est mis les cendres sur la tête, il a pris le sac de pénitence, et il avait fait pénitence à toute la ville. Y compris les animaux. Les animaux aussi ont dû faire pénitence et les ânes n'avaient pas leur piquetin comme tout le monde, comme d'habitude. Et Ninive n'a pas été détruite. Ceci pour nous montrer justement l'importance de cette vertu de pénitence. La deuxième conséquence, nous disent ces textes magnifiques, non seulement de nous reconnaître coupables, première conséquence de l'usage de l'humilité et de la pénitence, mais aussi d'implorer la douce miséricorde de Dieu. Douce miséricorde de Dieu. C'est le terme utilisé dans la prière. C'est magnifique comme expression. Douce miséricorde. Quand on parle de miséricorde, ça entraîne déjà une certaine douceur. Et bien, pour expliquer la bonté intrinsèque de Dieu, la liturgie va utiliser un double terme. Douce miséricorde. Et pour vous expliquer cela, l'Église va choisir un texte qui est le premier texte qu'on trouve après le mercredi des cendres. Donc au jeudi qui suit le mercredi des cendres, vous savez que pendant le carême, il y a une messe propre pour chaque jour. Eh bien, l'Église va donner un exemple que je vais vous lire parce qu'il est très peu connu, il est très court, il est tiré du prophète Isaïe. Un exemple historique. Et je vous le lis parce que ça nous montre les conséquences de l'usage de la prière. En ce jour-là, Ézéchias était un des rois d'Israël, un bon roi. Il fut malade jusqu'à la mort et le prophète Isaïe vint auprès de lui et lui dit, voici ce que dit le Seigneur, mettez ordre aux affaires de votre maison car vous mourrez, vous ne vivrez plus. Alors Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria le Seigneur en disant, souvenez-vous Seigneur, je vous en conjure, que j'ai marché devant vous dans la vérité avec un cœur parfait et que j'ai fait ce qui était bon à vos yeux. Et Ézéchias versa d'abondantes larmes. Alors le Seigneur parla à Isaïe et lui dit, allez. Et dites à Ézéchias, ainsi parle le Seigneur, le Dieu de David, votre père, j'ai entendu votre prière et j'ai vu vos larmes. J'ajouterai donc encore 15 années à vos jours. Et je vous délivrerai de la main du roi des Assyriens, cette ville aussi, je la protégerai, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc ça, c'est un exemple magnifique du rôle de la prière. La prière touche le cœur de Dieu. Surtout si cette prière est accompagnée de ces deux vertus essentielles, l'humilité et la vertu de pénitence. Donc, si j'ai l'humilité, la vertu de pénitence, je vais pouvoir me reconnaître coupable et je vais pouvoir utiliser la douce miséricorde de Dieu. Sous-entendu, si je n'ai pas l'humilité, je n'ai pas la vertu de pénitence, je coupe le cordon ombilical entre moi et Dieu. Un autre texte qu'on peut utiliser, c'est le texte du prophète Joël. Un petit prophète qu'il peut utiliser dans la liturgie. Il y a deux ou trois textes pour toute l'année liturgique de Joël, c'est tout. Et qu'est-ce que nous dit Joël? Joël, dans l'épître qu'il a choisi pour le mercredi des cendres, nous dit que il cite notre Seigneur, convertissez-vous à moi par le jeûne et les larmes. Convertissez-vous à moi par le jeûne et les larmes. Vous convertir, il faut prendre au sens étymologique du terme. convertirez-vous, tournez vers. Je suis dans une direction qui est. Je me rends compte que j'ai fait fausse route, j'ai pris un mauvais chemin. Je tourne sur moi-même et je remonte en arrière vers le point de départ jusqu'au moment où je peux reprendre la bonne direction. Convertissez-moi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'un homme est dans le péché, lorsqu'une âme est dans le péché, vit loin de Dieu, le bon Dieu va lui proposer d'abord une grâce spéciale qu'on appelle une grâce prévenante. Une grâce prévenante, c'est une grâce actuelle, en fait, qui va permettre à la personne de commencer par ouvrir les oreilles pour qu'il entende le bon Dieu. Et si cette personne utilise bien cette grâce prévenante, il va pouvoir commencer à revenir vers Dieu. Et à ce moment-là, Dieu va donner une deuxième grâce, et saint Thomas d'Aquin appelle cette deuxième grâce une grâce efficace. Et c'est l'association d'une grâce prévenante, parce qu'on ne peut rien faire sans le bon Dieu, même pas se retourner vers lui sans sa grâce, une grâce prévenante plus une grâce efficace qui entraîne la véritable conversion. Et comment se convertir? Non pas en contemplant ses doigts de pied, on se convertit, dit le texte de Joël, par le jeûne et les larmes. Le jeûne et les larmes. Pareil, l'humilité, la pénitence. Deuxième conseil de Joël, du prophète Joël, déchirez vos cœurs. Ça veut dire déchirer son cœur. Déchirer votre cœur, ça veut dire pratiquer la contrition. Conterere en latin, c'est le déchirement, c'est l'écrasement, si vous voulez, d'une petite noix sous les pieds, c'est ça que ça veut dire. Donc la contrition, c'est quoi? C'est la douleur de ses péchés et la ferme volonté de changer, d'éliminer de notre vie les occasions prochaines volontaires de péché grave. Donc à la fois la douleur, une douleur interne bien sûr, une véritable douleur, universelle, souveraine, et surtout supernaturelle, surnaturelle, eh bien à ce moment-là, je déchire mon cœur par la contrition. Et Joël reprend en disant, pourquoi? Parce que Dieu est bon, compatissant, patient, riche en miséricorde, et il rajoute une phrase incroyable, Dieu est prêt à s'affliger du mal qu'il envoie. Et c'est exactement ce que nous devons faire devant Dieu. Reconnaître d'abord sa bonté, c'est pour ça qu'on dit qu'on appelle Dieu le bon Dieu. Les gens qui s'énervent quand je prononce cette parole, parfois des personnes disent, oui, vous dites toujours le bon Dieu. Mais évidemment, parce que Dieu est d'abord bon. Ensuite, il est patient, heureusement qu'il est patient, parce que sinon on serait tous en enfer depuis longtemps. Il est compatissant. Dieu est compatissant. Qu'est-ce que ça veut dire compatissant? C'est-à-dire qu'il va prendre sur nous nos souffrances dont nous sommes responsables à cause de nos péchés. C'est-à-dire que lui est innocent, évidemment, puisqu'il est Dieu. Il va quand même prendre sur ses propres épaules nos propres souffrances que nous avons provoquées à cause de nos péchés. Il est également, nous dit le prophète Joël, riche en miséricorde. Il a un cœur miséricordieux, corps, misère d'arrêt en latin. C'est le cœur qui est prompt à aller aider la personne qui est dans la misère. L'image, c'est le bon samaritain. Il est sur son âne, il trouve sur le chemin quelqu'un qui est à moitié mort au bord de la route. Connaissez l'histoire. Qu'est-ce qu'il fait? Il descend de cheval, il descend de son âne, il se baisse vers la personne qui est moribonde, il donne le soin comme il peut et le place sur sa monture, c'est-à-dire sur l'humanité sacrée de notre Seigneur. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est riche en miséricorde et il est surtout prêt à s'affliger du mal qu'il envoie. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Dieu nous châtie parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il aimerait bien ne pas nous châtier. Il aimerait bien que nous maintenions dans la bonne direction par nous-mêmes. Alors comme il voit que malheureusement on ne fait qu'à notre tête, et qu'on suit notre volonté propre au lieu de suivre la volonté du bon Dieu, qu'on vit dans le péché, le bon Dieu voit bien qu'on va tout droit en enfer, il pourrait nous dire, très bien, tu vas aller en enfer, vas-y. Mais non, qu'est-ce qu'il fait? Il nous châtie pour, justement, nous aider à changer, et il s'afflige de ce mal, il ne demande qu'une seule chose, c'est arrêter ce châtiment. Alors parfois, nous avons des croix terribles, ça arrive à tout le monde. On ne va pas au ciel sans croix, on ne va pas au ciel en tapis roulant, si vous voulez, sans aucune difficulté. On va au ciel en pratiquant ce combat spirituel. Et pour bien montrer justement ce combat, Je vais dire deux mots aussi sur l'évangile du jour à cause de son importance. C'est pas pour rien que l'Église choisit en ce début de carême l'évangile des tentations. Notre Seigneur Jésus-Christ était tenté. Alors vous pensez bien que si notre Seigneur Jésus-Christ était tenté, vous et moi, on va aussi être tentés. Il est tenté sur les trois concupiscences. Les yeux, l'orgueil et la chair. Et une chose incroyable, ça m'a toujours sidéré quand je lis cet évangile, non seulement il accepte d'être tenté, alors qu'il est Dieu, il va accepter d'être touché physiquement par le démon. Puisque le démon va le prendre physiquement pour le monter au sommet du temple, pour le monter au sommet de la montagne. Dieu qui accepte d'être touché physiquement par le prince des démons. Quelle humiliation. D'abord, le démon va proposer à notre Seigneur qui vient de jeûner pendant 40 ans, pendant 40 jours, excusez-moi, pendant 40 jours il jeûne, au désert, dans son humanité. Notre Seigneur Jésus-Christ avait une humanité comme la nôtre, hein, sauf le péché. Donc 40 jours de jeûne absolu, c'est un gros jeûne. Eh bien, le démon va lui apparaître en lui disant, en lui proposant de changer des pierres en pain. Et les pères de l'Église expliquent que ces pains représentent les plaisirs défendus. Bon. Et comment notre Seigneur Jésus-Christ nous propose de lutter contre ces plaisirs défendus, j'ai déjà expliqué par l'humilité et la pénitence, mais aussi par le jeûne. Le jeûne, traditionnellement, a toujours été utilisé dans l'Église catholique comme le premier moyen de lutter contre les tentations qui proviennent de la concupiscence de la chair. Tentation d'impureté, jeûne. Deuxièmement, qu'est-ce que fait notre Seigneur? Il va être transporté par le démon au sommet du temple. Le démon va essayer de faire rentrer l'orgueil dans l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ. Jetez-vous en bas. Et les anges vont intervenir. Et là, c'est l'orgueil, concupiscence de l'orgueil. Et la concupiscence de l'orgueil va être maintenue, si vous voulez, va être contrôlée, au moins en partie, par la prière. Le jeûne contre la concupiscence des yeux, la prière contre la concupiscence de l'orgueil. L'homme qui se prend pour Dieu. Donc utilisez bien ce temps de carême aussi pour augmenter un peu la vie de prière. Gardez bien surtout votre chapelet tous les jours. Je vous conseille aussi beaucoup, rares sont les personnes qui peuvent venir à la messe tous les jours pendant le carême, de lire par vous-même les textes de la messe de chaque journée pendant chaque jour du carême. Là, c'est une très grande richesse. Et enfin, le démon va continuer, il va enfoncer le clou. Pardon. Il va prendre notre Seigneur Jésus-Christ et le mettre au sommet de la montagne et lui proposer tous les trésors de la terre. Ça, c'est la concupiscence des yeux. Le désir de tout posséder. Et contre ce désir de tout posséder, là intervient l'aumône. Donc, le jeûne contre la concupiscence de la chair, la prière contre la concupiscence de l'orgueil, et l'aumône contre la concupiscence des yeux. L'aumône qui va nous aider à nous détacher des biens matériels. C'est pour cela que, pendant le carême, l'Église nous rappelle l'obligation de donner du culte. Bon, évidemment qu'il faut chacun fasse ce qu'il peut en fonction de ce qu'il a. Hein, il faut d'abord se maintenir dans la pratique de son devoir d'État. Mais cette aumône est nécessaire au salut, comme le jeûne, comme la prière. Alors, demandons, mes bien chers frères, à la très sainte Vierge Marie, de nous aider à comprendre toutes ces choses-là. Elle n'a pas besoin de faire pénitence. Parce qu'elle n'a pas le péché originel. Donc elle n'avait pas de concupiscence des yeux, pas de concupiscence de l'orgueil, pas de concupiscence des yeux, de la chair et de l'orgueil. Et pourtant, elle est reine des martyrs. Et pourtant, alors qu'elle est innocente, qu'elle n'a pas le moindre péché, le péché qu'elle n'aurait pas dû avoir à faire pénitence. Il lui sera dit par Siméon, un glaive de douleur vous transpercera l'âme. Parce que Dieu a voulu que sa mère soit l'instrument de la rédemption. Elle est co-rédemptrice du genre humain. Elle est médiatrice de toutes les grâces. Comment le bon Dieu a-t-il permis, c'est encore un grand, grand mystère, comment le bon Dieu a-t-il permis que celle qu'il aimait le plus au monde, à savoir sa mère, comment le bon Dieu a-t-il pu demander à sa mère, tout en connaissant la sainteté extraordinaire de sa mère, de lui demander de souffrir pour nous alors qu'elle n'est pas responsable? Il y a encore des grands, grands mystères, des grands mystères des conséquences du péché. Première conséquence du péché, les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. Il prend une humanité, mais une humanité souffrante. Deuxième conséquence du péché, notre Seigneur Jésus-Christ va devoir demander à sa mère, au cœur immaculé de Marie, de participer aux souffrances du Sacré-Cœur. Alors pensons à tout ça, mes bien chers frères, lorsque nous sommes tentés, nous aussi, par la concupiscence de la chair, par la concupiscence des yeux, par la concupiscence de l'orgueil. Et demandons, supplions à notre Sainte Vierge Marie de nous aider justement à nous rapprocher de la croix. Parce que c'est la croix qui est au centre de tout. Nous rapprocher de la messe. La messe, c'est quoi? La messe, c'est la croix. Pourquoi est-ce que vous croyez que dans l'église du Vatican II, ils ont supprimé la messe? Pas pour rien. Ils ont supprimé la messe pour supprimer la croix. Et pourquoi ont-ils voulu supprimer la croix? Ils ont supprimé la croix, leur formule, c'est jamais mourir, jamais souffrir. On est sur la terre pour essayer d'être le mieux possible. On n'est plus sur la terre comme des voyageurs pour aller au ciel, on est sur la terre pour y rester le plus longtemps possible. Bien non, ce n'est pas l'enseignement de l'Église catholique. Donc dirigeons nos regards sur la croix, sur l'autel, pour nous rappeler que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné que si nous ne faisons pas pénitence, nous périrons tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.